Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce studio Rahmatoulaye Dembélé, rénové pour la circonstance, ou en tout cas pour le bonheur, non seulement de nos invités, mais aussi de nos différents téléspectateurs d'ici là. Et d'ailleurs, nous sommes donc très heureux de vous retrouver dans ce studio flambant neuf pour repartir avec vos sujets de débat. Et ce soir, dans le QG de l'actualité, nous avons deux thématiques que nous allons aborder avec nos différents invités. La première thématique est la suivante: élection professionnelle, que faut-il en savoir? Nous savons tous que c'est à travers une circulaire en date du 23 mars 2026 que le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue avait justement demandé l'installation des commissions électorales locales et régionales. C'était justement le 23 mars dernier. Et quelques jours après, voilà, nous avons quand même vu une réaction d'une centrale, notamment l'INTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, qui avait justement demandé une interdiction à ces militants, sinon les syndiqués, pour ne pas justement prendre part au processus qui était engagé, qui avait quand même été sollicité par le ministre du Travail à l'époque. Alors, le lendemain, voilà, comme il fallait s'y attendre, c'est une autre circulaire qui a été justement envoyée par le même ministre pour demander justement la suspension de la circulaire qui avait été émise le 23 mars 2026. Que faut-il justement savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec le processus? Voilà, ce serait dans ce sujet de votre QG de l'actualité. Deuxième sujet de ce débat, nous intéresserons justement à cette autre actualité brûlante de la semaine. C'était avant-hier, vendredi, nous l'avons tous vu à travers un point de presse, le point de presse qui a été animé au palais de Couloa, pour être plus précis, au ministère des Affaires étrangères, à travers justement un communiqué d'un point de presse que le ministre, Son Excellence Abdoulaye Diop, a justement fait le point par rapport à la situation du Mali quant à l'avenir du Sahara occidental et le Mali, qui d'ores déjà, en tout cas, a signé son retrait de la reconnaissance justement de la République Sahraoui démocratique. Qu'est-ce qu'il faut justement comprendre de cette décision, on va dire, historique, voilà, du gouvernement du Mali? Ce serait avec nos différents invités, dont M. Amadou Oumar Diallo. Il est journaliste. M. Diallo, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, M. Traoré.
Bienvenue.
Le plaisir est partagé.
C'est un plaisir de partager, comme vous l'avez si bien dit. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité de ce débat, Abdallah Yatala, consultant, formateur, M. Traoré. Bonsoir.
Bonsoir, M. Traoré. Merci pour l'invitation. Et salut à mes co-débatteurs. Et profite de l'occasion pour quand même remercier la direction de Djibouba TV pour ce studio relooké au nom de Rahmatoulaye Dembélé. Voilà, exactement. Donc, félicitations à Djibouba TV et bonne mission à nous tous.
Merci, M. Abdallah Yatara. Alors, oui, il est toujours fidèle au poste, Badou Sidikova, journaliste. M. Badou Sidikova, bonsoir.
Bonsoir, Omar. Bonsoir à mes débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices connaissus sur Djoliba TV. Encore une fois, merci au personnel de Djoliba, à l'équipe technique de Djoliba, à l'ensemble des personnes de Djoliba qui fait un travail remarquable. Je me vois dans un studio New Look. Et le studio porte le nom de Rahmatoulaye Dembélé. Pour qui connaît Rahmatoulaye Dembélé, ce n'est pas n'importe qui. Elle est une victime des événements du 26 mars 1993. Donc, que Aïcha Tassi, qui est sa maman, repose en paix. Que Karim Dembélé, qui est son père, repose en paix. Parce qu'il faudrait rappeler que c'est des illustres personnalités qui ont marqué l'histoire du Mali contemporain.
Merci, Badou Sidikova, en tout cas, pour ce témoignage. À notre tour aussi, nous joignons nos voix au vôtre, en tout cas, pour remercier justement la direction de Djoliba TV News, qui nous font l'honneur justement de, on va dire, d'inaugurer de façon officielle ces studios flambant neuf qui portent le nom de Rahmatoulaye Dembélé. Oui, Diallo, on va justement peut-être dire un mot sur le studio et surtout l'honneur qui nous est fait par la direction.
Oui, il faut saluer franchement le travail abattu par la direction de Djoliba TV en rénovant ce studio et porter le nom à un illustre personnage. Vous savez, ça nous rappelle en tout cas les événements autour desquels Rahmatoulaye est tombé. Moi, j'étais là. J'ai assisté, j'ai participé à ces activités. J'étais certes jeune à l'époque, mais j'ai participé. Nous étions dans la commune 4, précisément de la Fiabou. Nous avons pris nos départs pour la ville, avec tout ce qu'on savait, tout ce que les gens peuvent imaginer, avec beaucoup de risques. Mais avec la jeunesse, évidemment, la peur ne fait pas partie du vocabulaire des jeunes. Donc, on était très engagés. Donc, c'est bien de saluer ces genres de mémoire et surtout de rappeler ces genres d'événements. Parce que ça nous permet de se plonger toujours dans nos histoires, dans notre propre histoire, pour toujours renaître avec une nouvelle philosophie de la vie, surtout la situation dans laquelle aujourd'hui nous nous trouvons. On est exactement dans les mêmes conditions que 1991, aujourd'hui, 2026. On est encore dans les mêmes conditions que 1991. Quand je vois la circulation à Bamako aujourd'hui, ça me rappelle les derniers moments du régime de Moussa Traoré. Donc, souvent, ça me fait peur, la rareté dans la circulation aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens font attention. Aujourd'hui, de moins en moins, il y a des véhicules dans la circulation à cause des difficultés de la vie. Donc, c'est aussi un moment de rappel aux autorités de faire extrêmement attention. On est dans un moment très volatile, extrêmement volatile. Et il faut faire attention avec les Maliens qui sont imprévisibles.
D'accord. Ok, je pense que c'est un message, surtout un avertissement sans frein. Merci donc, cela a peut-être pu faire l'objet aussi d'un débat que nous allons certainement animer dans les jours à venir. Ceci étant, nous nous plongeons dans le vif du sujet, à savoir l'élection, les élections professionnelles. Hein. Voilà, nous savons tous que tout est parti vite à travers une circulaire du 23 mars dernier, avant qu'il n'y ait cette réaction de l'UNTEM, la centrale, on va dire la plus grande centrale que le pays connaît, même s'il y en a d'autres centrales qui existent au sein de, en tout cas au niveau du travail. Alors, et juste après donc, la réaction de l'INTEM, le ministère en charge du travail, de la fonction publique de dialogue a aussi réagi, demandant justement la suspension justement, du processus afin que toutes les parties puissent être alors, justement, impliquées. Monsieur Abdallah Yattara, qu'est-ce que nous devrons savoir justement de cette situation qui prévaut aujourd'hui par rapport aux élections professionnelles?
Merci bien, monsieur Traoré. Je crois que c'est la première élection professionnelle, sauf erreur de ma part. Il s'agit d'une élection entre les centrales syndicales. Et donc, on en a quatre au Mali, la CSTM, la CDTM, la CMT, l'UNTM. Donc, il s'agira pour l'occasion de désigner des délégués du personnel qui seront les interlocuteurs des travailleurs face à l'État. Et je crois qu'il a plusieurs enjeux. Ces élections ont plusieurs enjeux. Et d'abord, je crois que, sauf erreur de ma part, les 12 postes qui reviennent aux travailleurs hein, au niveau du Conseil économique, social, culturel et environnemental, et doivent revenir aux travailleurs. Mais selon les renseignements, sauf erreur de ma part, ces 12 postes sont occupés par les travailleurs de l'UNTM, pas les autres syndicats. Et aussi, il y a aussi l'enjeu aussi des représentations au niveau des conseils d'administration, des structures qui représentent un peu les poumons de l'économie de l'administration. Et généralement, dans ces conseils d'administration-là, seul l'UNTM est représenté. Et il y a aussi la question du siège aussi. Et le siège de l'UNTM aujourd'hui était le siège de la seule centrale syndicale avant 1991. Mais aujourd'hui, on en a quatre aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir redéfinir ça, ça aussi. Bon, voyez-vous, donc, l'UNTM, dans un communiqué, en fait, a contesté un peu la méthodologie du gouvernement, qui, selon elle, n'a pas consulté l'UNTM. Mais les trois autres centrales syndicales n'ont pas réagi. Et donc, sous la pression de l'UNTM, on peut dire comme ça, le ministre a été obligé, la tutelle des travailleurs des syndicats a été obligée de suspendre le processus en attendant de consulter les différentes centrales. Mais seulement que, je l'ai dit, je ne suis pas pour cette poursuite de l'UNTM. Vous savez, et moi, je n'aime pas trop qu'on défie la tutelle. Et surtout que l'UNTM, je prends l'UNTM, mais je prends aussi les travailleurs à témoin. Et surtout pour un État qui a beaucoup fait pour les travailleurs, il mérite quand même un peu de respect. Comprenez, moi, qui ne connaît pas Kathleen, c'est une grande personnalité. Et un simple coup de fil au ministre aurait pu lui permettre d'ouvrir les portes, les bureaux du ministre. Il allait venir discuter avec le ministre et on allait trouver un terrain d'entente sans pour autant que ce communiqué là soit établi à l'endroit, effectivement c'était à l'endroit du travail du NTMA Bamako et dans les autres régions. Et c'était un communiqué qui, à mon avis, montre un peu le bras de fer, que la force que l'UNTM veut montrer. Et je crois qu'on doit sortir de ça. Et je l'ai dit, l'État a beaucoup fait pour les travailleurs. Et l'État ne vaut que par les travailleurs. Comprenez ? Je l'ai dit, sur ces 5 dernières années, l'État en a fait beaucoup. Et je donne seulement quelques chiffres. Et en 2022, on avait une masse salariale de 690 milliards. Et sur la table du gouvernement se trouvaient 33 PV de conciliation. Et l'exécution de certains PV de conciliation a amené le budget, maintenant la masse salariale, fin 2024, à 964 milliards. Et en 2025, l'État aussi a pris un nouveau décret qui permet de valoriser un peu la valeur indiciaire et d'augmenter ça de 15%. Okay. Et aujourd'hui, pratiquement, on est à 1400 milliards de masse salariale sur un budget de 3000 milliards. Et si on devrait ajouter à ça le fonctionnement même de l'administration, donc ça fait à peu près 2000 milliards sur le budget d'État. D'accord. Je crois que pour un État qui fait de tels efforts, d'accord, ça mérite beaucoup de respect. D'accord. Les travailleurs doivent avoir ça, d'accord, et vraiment un peu de respect par rapport à la situation et aussi un peu de respect par rapport à l'État.
D'accord. Oui, alors, Amadou Oumar Diallo, M. Abdoulaye Tra demande du respect envers l'État. Alors, comment voyez-vous, quelle lecture faites-vous justement de toutes ces circulaires qui ont circulé ces derniers temps et justement la réaction du ministre et la réaction également de l'INTM à l'époque?
Je pense que, dommage que on n'a pas en face quelqu'un de l'INTM pour vraiment apporter la contradiction. Mais je pense que ce qui s'est passé, ça nous ramène en arrière. En arrière, pourquoi, on se pose la question maintenant, pourquoi Rahmatoulaye a accepté de mourir? C'est justement pour le changement. On est dans un contexte de pluralisme, et politique, et démocratique. La nouvelle constitution donne la liberté individuelle et collective à tous les citoyens maliens de mener des activités selon leur mode de compréhension. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de camisole de force où il faut forcément, obligatoirement, militer juste simplement au sein de l'INTM. Donc, le contexte étant ouvert, forcément, comme l'a rappelé Abdallah, 12 sièges au niveau du Conseil économique, social et culturel, environnemental et culturel, occupés par une seule centrale. Alors qu'il y en a, il y a trois.
Quatre.
Maintenant,
si
quatre.
Je m'abuse.
Voilà, quatre. Donc, t'as forcément vu ce de forme. L'État est interpellé, fortement interpellé, parce que l'organisation de la gouvernance revient au gouvernement. C'est un rôle institutionnel, c'est un rôle constitutionnel. Maintenant, ce que l'UNTM, en lisant l'alerte circulaire du secrétaire général de l'INTM à la personne de Yacouba Katlé, on se pose la question, est-ce que forcément l'INTM a besoin d'être obligatoirement être consulté pour organiser une élection qui l'implique, qui le concerne au titre que d'autres conquérants?
Mais c'est un acteur quand même du processus, M.
Gallo. On vient de ce matin, il y a eu la course de l'ORTM, course cycliste de l'ORTM. J'écoutais à la radio, il y avait 90 concurrents, plus de 90 concurrents. Est-ce que tous ces 90 concurrents doivent être représentés dans la commission d'organisation? Non. La compétition, l'ouverture, c'est un esprit collectif, collégial, peut-être que le gouvernement peut partager. Okay. Mais moi, j'ai le décret en face de moi. Le décret 1586. Du 31 mai 2024, disons. Dans ce décret-là, nulle part il n'est écrit que le gouvernement est obligé d'impliquer une centrale dans l'organisation.
Alors, si aucun texte ne l'autorise, alors qu'est-ce qui peut bien expliquer, M. Diallo, ce volte-face du ministre?
Mais le volte-face du ministre, parce que la centrale UNTM maintient le gouvernement dans une centrale permanente. N'oubliez pas, en 91, pour faire tomber le régime, l'UNTM a été d'un apport important. Et ce qui a donné à Barry Karambé toute son importance dans l'architecture de la transition 92. et même au démarrage de l'ADEMA, du pouvoir ADEMA en 92. Et après, en 2021 tout près, pour qu'il y ait deuxième coup d'état de rectification, les deux grèves de l'UNTM ont été d'un apport capital. C'est ce qui a affaibli le gouvernement de Bandao, avec Mokotarwan au Premier ministre. Et c'est ce qui a favorisé le changement. Et c'est ce changement-là aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, le secrétaire général de l'UNTM se retrouve président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui n'est pas, moi je pense, qui n'est pas tout à fait normal. Parce que, en tant que chef d'institution et constitutionnel, la loi, ça dit que le bon sens recommande de se débarrasser de son statut, en tout cas de sa casquette de secrétaire général de l'UNTM. Okay. Mais, ça dit tout simplement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est la stratégie de conservation des privilèges et des avantages, je ne dirais pas induits, mais de fait. Parce que aujourd'hui, l'UNTM occupe les 12 sièges au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au niveau de tous les sièges de représentativité au niveau des conseils d'administration. Jusqu'à une date récente, le secrétaire général de l'UNTM, président du Conseil économique, social et culturel, secrétaire général du CENTAD, secrétaire général du comité syndical des douanes, Yacouba Katlé était encore président du conseil d'administration de l'UNPS. Tout ça pour un seul individu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit de partage.
Mais s'il n'y a aucun texte qui l'interdit, qu'est-ce que vous voulez?
Mais le gouvernement a obligé le président du Conseil national de la société civile de quitter son poste de président de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins. Il a été obligé de démissionner. Avant lui, celui qui l'a présidé, Boiré. Aguib Boiré.
Vous parlez de M. Diarra?
Son prédécesseur, Aguib Boiré,
oui.
Il était le secrétaire général du CENTAD, et disons de
la CNDH.
Oui, président de la CNDH. Mais secrétaire général du syndicat de SINABEF.
D'accord.
Trésorier.
Est-ce que cela sous-entend qu'il y a deux poids, deux mesures?
Mais bien sûr.
D'accord, très bien. Le temps de faire réagir, M. Badoussi, du coup, rapidement par rapport aux différentes circulaires que vous avez vues passer. Et aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette situation, M. Badoussi, du coup?
Oui, ma lecture par rapport à cette situation, c'est qu'il faut rénover, il faut évoluer, il faut aller de l'avant. Parce que, comme il l'a rappelé, jusqu'en 1991, l'UNTM était la seule centrale syndicale au Mali. C'était l'interlocutrice du gouvernement. Mais avec le pluralisme démocratique, le multipartisme intégral, avec l'ouverture démocratique, on a autorisé la création d'autres syndicats. Or, il s'est trouvé que de l'indépendance au jour d'aujourd'hui, c'est l'UNTM qui a les privilèges au niveau de toutes les structures. Par exemple, quand on parle de structures, on prend en compte les structures paritaires, surtout les structures paritaires qui concernent patronat et employeur et employé, patronat et État, travail et employeur, vous vous rendez compte que l'UNTM est majoritaire. Vous prenez, il a parlé du cadre de l'UNTM, vous prenez la CMSS, la CANAM, etc. Donc, l'UNTM a beaucoup plus de représentation que les autres syndicales. Je reviens encore sur le cas du Conseil économique, social et environnemental. Là également, l'UNTM se taille la part de lion. Et pour faire face à cette situation, les autres syndicats ont décidé de réagir. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, le président de l'Organisation internationale du travail est présentement à Bamako pour pouvoir résoudre le problème, pour faire en sorte qu'il y ait une parité entre l'UNTM et la CSTM, la CTDM et le CMT, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour tout simplement dire qu'il faut un changement. Maintenant, l'implication des préfets, des gouverneurs, des sous-préfets par rapport à la mise en place des organisations professionnelles, c'est ce que le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katine, n'a pas compris, parce que pour lui, c'est une implication directe de l'État. Et face à ces réactions, effectivement, façon à retirer l'arrêté. Mais je me dis, quelque part, peut-être que si l'UNTM a sorti les muscles, c'est une façon aussi de montrer que, jusqu'à preuve du contraire, et ils ont la situation à main, et aucune circulaire ou aucun texte n'autorise l'État à s'impliquer dans cette affaire. Mais puisque il y a le représentant de l'Organisation internationale du travail qui est là, pour pouvoir et résoudre les différends. C'est pourquoi j'ai dit, il faut innover, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire, faisons en sorte que et les autres centrales syndicales aussi puissent avoir leur mot à dire. Moi, je ne m'en prends pas à Yacouba Katil en tant que secrétaire général. Peut-être qu'en réagissant ici, il a réagi par rapport à des textes. Et si le ministre a retiré sa décision, son arrêté, c'est parce que c'est comme ça que ça se doit. Parce que vous savez, l'expérience a démontré que dans notre pays, celui qui est puissant, il sort les muscles. C'est pourquoi souvent j'en vais à la presse. J'en vais à la presse parce que à chaque fois quand l'INTM se sent menacé, et les travailleurs de l'INTM sortent les bons, son vent debout pour pouvoir défendre leurs intérêts. Je me rappelle bien quand l'UCLEI a été créé, quand l'UCLEI avait décidé de contrôler les biens de certains cadres, du centaine de certains cadres de l'INTM, etc., etc. L'INTM est sorti comme un seul homme sous Ibeka. L'INTM a même entamé une grève de 72 heures et la grève a été largement suivie et l'État a été obligé de reculer. Donc peut-être l'État voulait peut-être affaiblir l'INTM. Et or que jusqu'à preuve du contraire, il faut le dire, l'INTM c'est la centrale syndicale phare. Maintenant, ce qui peut peut-être réduire la capacité de l'INTM, peut-être c'est la mise en place d'autres textes pour permettre aux autres centrales syndicales aussi de pouvoir s'exprimer, d'accord, de pouvoir avoir des représentants dans les différents ZPA, etc., etc.
Très bien. Oui, ok. Abdoulaye Attra, oui, justement, c'est une question qui taraude les esprits. Il y a quasiment 4 syndicats qui existent, mais l'INTM est la seule centrale qui, quand même, a protesté, demandant même, allant jusqu'à demander justement à ces syndiqués de ne justement pas prendre part au processus en cours. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela, selon vous, M. Abdoulaye Attra?
Bon, peut-être que l'INTM sent peut-être un changement. Peut-être que dans ces élections professionnelles, il s'agira de reconfigurer un peu le paysage syndical, vous comprenez, et de ne pas se limiter uniquement à la seule centrale de l'INTM qui s'arroge un peu tous les avantages. Maintenant, est-ce que dans les élections, maintenant, les résultats des élections, est-ce que ça va se faire valoir qu'effectivement l'INTM est la force principale? Et seuls les résultats de ces élections pourront nous donner. Mais moi, j'ai dit tout simplement que la forme a manqué à l'UNTM. Et c'est ce que j'ai dit. Pourquoi l'État n'organise pas? Qui peut organiser ces élections en dehors de l'État? Ce n'est pas l'UNTM elle, mais ce n'est pas les centrales syndicales elles-mêmes qui vont organiser les élections. Non, je ne pense pas. Les travailleurs sont là, ils ont une tutelle. C'est la fonction publique, c'est le ministère de la fonction publique du travail. Et forcément, c'est la tutelle qui doit organiser les élections. Maintenant, est-ce que forcément il va falloir amener autour de la table tous les protagonistes? Là, comme l'a dit Diallo, moi je ne suis pas aussi pour ça. Force doit être restée à la tutelle d'organiser les élections. Maintenant, si effectivement par ailleurs on va sentir qu'il a eu vice de forme ou il a eu peut-être des manquements, les textes sont là peut-être pour pouvoir attaquer les résultats. Donc, attendons ça, mais on ne peut pas être jugé parti en même temps.
D'accord.
C'est ce que je vois de la part de l'UNTM.
Très
on
ne
peut pas être jugé parti en même temps.
Très bien. Alors, oui, M. Abdoulaye Attra, il est vrai qu'on ne peut pas être jugé parti en même temps. Mais une chose, justement, est d'organiser les élections. Une autre chose aussi, est de participer aux élections. Mais qui participe aux élections?
Ce sont les travailleurs.
Alors, si l'INTM dit voilà, qu'elle ne participera pas, sachant bien que c'est pratiquement la plus grande centrale, comment voulez-vous que les choses...
Non, on a 4 centrales.
D'accord.
Voilà, on a 4 centrales. Historiquement, l'INTM, c'est la première centrale syndicale.
Et la plus forte aussi.
Non, on ne le sait pas pour le moment. Moi, je dis, on ne le sait pas pour le moment. Le résultat des urnes va dire quelle centrale syndicale aujourd'hui est la plus forte.
D'accord.
Si les autres syndicales et les autres centrales syndicales acceptent d'aller dans les élections, c'est un peu aujourd'hui pour contester un peu ce qu'on donne à l'UNTM comme force principale. Mm-hmm. Donc, il va falloir sortir de ça. Okay. Attendons le résultat des urnes pour savoir réellement quelle centrale syndicale est aujourd'hui la plus représentative des travailleurs.
D'accord.
Mais moi, j'ai dit et je le répète, je ne suis pas pour qu'on puisse défier l'autorité de la tutelle par rapport à certaines choses. Et j'ai dit, je le répète, je le maintiens, l'État a trop fait pour les travailleurs pour être encore défié.
D'accord.
Il faut que l'on sorte de ça.
D'accord. Ok, il faut que l'on sorte de ça. Alors, Amadou Oumar Diallo, justement, l'INTM aujourd'hui, c'est elle qui est sur toutes les lèvres parce que là, c'est elle qui avait demandé à ses syndicats de ne pas justement prendre part au processus en cours. Si aujourd'hui l'État, on va dire le ministre, en tout cas Dr Fassou Coulibaly, essaie de revenir en arrière, peut-être que c'est une erreur qui a été commise et il veut y réparer. Et si vous étiez à la place du ministre, quelle attitude allez-vous adopter?
Vous savez, mon père, Omar, ça me rappelle les années de Brest de l'AIM. Dans les assemblées générales de l'AIM, même si tu n'es pas favorable à la grève, tu n'avais pas les moyens de t'exprimer. On ne te permettait même pas de t'exprimer à cause de la violence verbale. L'élève, l'étudiant est soumis à une force de, à une forte pression telle que il a même peur d'exprimer ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. L'UNTM joue au chanteur, c'est-à-dire au maître chanteur. Excusez-moi du mot, mais c'est ça en réalité le terme. Parce que, en termes de rapport de force, qui peut évaluer effectivement ce qu'on donne à l'UNTM comme capacité et ce qui est réellement mobilisable sur le terrain? Parce que le terme UNTM, déjà, ça fait peur. Et surtout, l'UNTM a fait une... En 2003, quand le président Tété venait de s'installer nouvellement, l'UNTM a fait une grève qui a fait partie du ministre de la fonction publique à l'époque. Diakité, j'ai oublié son prénom. Le lendemain de la grève, Mouribo Diakité, le lendemain de la grève, j'ai suivi, parce que j'étais jeune reporter à l'époque, j'ai suivi la réaction du président Tété. Il était très fâché quand cette grève-là a eu lieu. Mouribo Diakité, pour qui il avait beaucoup de respect et beaucoup d'estime, il a été obligé de se défaire de ce monsieur. Malgré la compétence de Mouribo Diakité à l'époque. En 2000, l'UNTM a fait reculer le gouvernement dans l'application de la loi. On peut tout dire par rapport à cette institution de vérification. Mais quand même, la loi, c'est la loi. Et force doit rester à la loi. Mais malheureusement, parce qu'il y a des intérêts individuels en jeu, on a fait reculer le gouvernement à travers les grèves. Et c'est les mêmes grèves qui ont fait que le gouvernement de Montaouane et son président sont tombés. C'est ce qui a facilité le renversement en mai ou bien en 2021. Et donc aujourd'hui, c'est les nouveaux maîtres du pays ont peur de l'UNTM, il faut le dire. Ça fait comme... Ils ont toutes les décisions sur lesquelles... ils ont pris beaucoup de décisions sur lesquelles ils ne sont pas revenus. Mais la grève du SNABEF, le gouvernement a été obligé de reculer. L'UNTM a sorti ses muscles cette fois-ci. Le gouvernement a été obligé de reculer. Mais dans ce texte-là, comme j'ai dit, dans cet arrêté-là, la commission d'organisation, c'est à parité égale de représentation, non seulement au niveau de la commission nationale, mais au niveau des commissions de chaque région. C'est commission nationale, commission régionale et commission locale. Et à chaque niveau, c'est l'État, à travers le ministre de la fonction publique au niveau national, au niveau régional, le gouverneur, au niveau local, le préfet, avec le représentant des travailleurs, avec, disons, les candidats, la représentation des candidats. Ensuite, l'inspection du travail. Donc, c'est une commission paritaire qui fait correctement le travail. Maintenant, il s'agit certainement de noyauter ces commissions-là pour peut-être influencer les résultats. Et les autres syndicats centrales aussi. Mais ce sont des Maliens. Nous sommes obligés de défendre ces Maliens. Notre métier nous oblige de défendre les citoyens maliens. Parce que chaque Malien, comme je l'ai dit, secrétaire général du comité syndical de la Guam, secrétaire général du Syntag, secrétaire général de l'UNTM, président du Conseil économique, social et culturel, pour tout ça, pour un seul individu, et les autres Maliens, comment ils vont vivre?
Mais quand vous parlez justement, M. Diallo, des autres
syndicats... Il faut avoir l'esprit de partage.
Quand vous parlez des autres syndicats, est-ce qu'ils n'ont pas de responsables? Qui dit c'est responsable des différents syndicats?
Bon, les autres syndicats, comme j'ai dit, c'est la force de la manipulation de l'opinion. Parce que quand l'autre se sent trop fort et qu'il y a tous les moyens de pression, donc les autres sont obligés de se... Maintenant, qu'est-ce qui peut changer? Ça a eu lieu au Sénégal. Il y avait des syndicats qui se prenaient pour les superpuissants. Mais les urnes ont montré autre chose. Au niveau du Sénégal, j'ai lu des articles. Quand il y a eu élection au niveau du secteur de l'éducation, le syndicat historique qui se prenait très fort s'est vu talonné de sa position, de sa posture de leader en bas.
Est-ce que c'est la même situation qui guette l'Inter?
Mais c'est évidemment. Mais il faut aller sur le terrain. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec l'Inter. Mais ils n'ont pas d'autre moyen d'exprimer. Et nous, médias, on s'est auto-censuré quand il s'agit de l'Inter. Les gens en parlent très peu. Même cette lettre circulaire de ce gardien de Wakatli à la une des journaux. Mais il faut regarder. Aucun journal n'est rentré en profondeur pour analyser le phénomène. Or, on dit en matière de communication, en matière de journalisme, peut-être une seule lettre ou bien un petit mot peut déclencher une enquête.
D'accord.
Les gens auraient dû faire des enquêtes pour comprendre mais pourquoi l'UNTEM s'oppose. Parce qu'il y a un enjeu. Cet enjeu-là, ça doit susciter l'intérêt des journalistes.
Okay.
Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je fais remarquer que il y a aussi le droit des autres Maliens
d'accord.
qui est violé, que l'État doit obligatoirement protéger.
D'accord. Ok. Badou Sidi Kouba, l'INTEM s'oppose, le gouvernement, on va dire, emboîte le pas parce que quasiment il a fallu cette sortie de Yacouba Katilé, secrétaire général de l'INTEM, pour que le ministre Dr Fassoum Coulibaly aussi revienne en arrière. Décidément, l'INTEM, selon, en tout cas, comme le dit M. Amadou Oumar Diallo, est l'enfant gâté de la République, c'est bien ça?
Oui, effectivement, face au rouleau compressé de l'INTEM, le gouvernement a fait volte-face. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, une fois j'ai échangé avec un grand syndicaliste qui m'a dit qu'il y a eu une rencontre entre les autorités de la transition et un leader syndical de l'INTEM. Et ces autorités ont dit à ces leaders-là que ah, nous devons prendre soin de vous, il faut que nous travaillions main dans la main. Parce qu'il suffit que vous montrez un peu les muscles pour que le pays puisse vaciller. Vraiment, nous vous demandons de nous aider. Parce que si vous vous sortez la tête de l'eau, nous, nous risquons de tomber. Pour que nous ne tombions pas, nous avons besoin du concours de l'UNTM. Pour dire qu'une toute petite grève de l'UNTM peut avoir les mêmes effets que les deux bombes atomiques qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc pour vous dire tout simplement, la force de l'UNTM se dit peut-être aux autorités. Parce qu'après les événements de 91, on devrait quand même rénover les textes, faire en sorte qu'il y ait égalité entre les syndicats. C'est vrai, aujourd'hui on parle de 4 syndicats. Et le poids des 3 autres syndicats, les leaders de ces 3 syndicats, et leur degré de représentativité, on ne les entend pas. Si ce n'est pas face à ce genre d'événements, on n'entend pas les autres centrales syndicales. Peut-être la CSTM d'Amiens-Gundo, à part la CSTM d'Amiens-Gundo, moi, à ma connaissance, c'était même que la centrale syndicale de ma grand-mère, Dédé Ousmane, le CMT ou quoi là. Bon, ces deux centrales, on ne les entend pas. Or, ils devaient faire entendre leur voix, faire en sorte que l'UNTM ne soit pas le parapluie des autres syndicats.
D'accord.
Faire en sorte que, quand on parle de travailleurs, d'employeurs, quand on parle d'État et de patronat, qu'il y ait une égalité de représentativité entre tous les syndicats.
Okay. Très bien. Je pense que nous allons pouvoir enchaîner dans le deuxième sujet, s'il n'y a pas de réaction par rapport à ça. Intervenir rapidement après à Diallo.
À mon avis, le ministre a fait campagne pour l'UNTM sans le savoir. En suspendant le processus par la lettre issue de la lettre circulaire de l'INTM, pratiquement le ministre a fait campagne pour l'INTM sans le savoir. Et si par d'aventure l'INTM venait à gagner de ces élections professionnelles, pour moi le ministre en est entièrement responsable. Et pour moi, on devrait fort devoir rester à la loi. Et je crois, je le répète encore, les travailleurs doivent respecter l'État. Et 1400 milliards pour 158 000 agents. Et l'ouverture démocratique. L'UNTM a lutté ici pour l'ouverture démocratique, pour la liberté d'expression. Mais on a plus de 10 sous les partis politiques qui a entendu l'UNTM parler. La liberté d'expression aujourd'hui, pratiquement, on dit que c'est menacé aujourd'hui. Est-ce qu'on entend l'UNTM? Et pourtant, l'UNTM a lutté avec le mouvement syndical, le mouvement démocratique, pour ces avantages-là. Mais aujourd'hui, ces avantages-là sont presque menacés. Mais l'UNTM, aujourd'hui, a perdu sa langue. Mais je crois qu'elle doit revenir dans le jeu.
D'accord.
Et aussi, elle doit aussi respecter l'État.
D'accord. L'UNTM doit revenir dans le jeu et justement respecter la loi. Ok, une dernière réaction, Amadou Martel.
La dernière réaction, c'est de dire justement que il y a 9 millions, ou bien combien millions de Maliens?
20 millions.
23 millions de Maliens. Sur 23 millions de Maliens, une poignée prend le pays en otage. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est une prise d'otage? Est-ce que le monde n'est pas trop fort?
C'est une prise en otage. Les grèves que l'UNTM a organisées, les gens n'ont pas le choix. Moi, en 2003, la grève dont je parle, en 2003, on m'a fait faire le tour Moi, j'ai fait le tour à l'époque de toutes les administrations à Bamako. Et j'ai vu, j'ai écouté, j'ai entendu le rendement des travailleurs. Et on m'a même dit, parce qu'il y a à ce niveau, ce jour-là, il y a eu des gens qui n'ont pas voulu suivre la grève. Et j'ai appelé dans les régions. J'étais chargé du reportage ce jour-là de l'Essor. J'ai appelé dans les régions pour savoir quel est le niveau de suivi de la grève. Mais elle n'a pas été à 100%. Et quand j'ai écrit ça dans mon papier, eh bien, à l'époque, mon directeur aussi, il ne censurait pas. Moi, j'ai écrit, j'ai rapporté, et ça a été publié dans l'Essor comme tel. Mais ça a suscité beaucoup de réactions. Ça a suscité beaucoup de réactions.
D'accord.
Et surtout, encore, à l'UNTM, ce qui est très grave à l'UNTM. Mais il y a des travailleurs, il y a des syndiqués, des syndicalistes qui sont à la retraite. Ça ne se dit pas beaucoup.
Qui continuent encore à briquer les avantages.
Qui continuent à être des syndicalistes.
D'accord. Ok, très bien. Ceci est dossier, monsieur. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire.
Même la CSC.
C'est déjà bon, monsieur Varoussi. Je vous en prie. On a passé le temps pour le second thème, alors qu'il est aussi très important, comme le premier thème que nous venons de débattre tout à l'heure. Alors, justement, nous nous intéresserons à cette décision diplomatique, on va dire, historique pour le Mali, qui en tout cas se retire, j'allais dire sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Pour beaucoup de Maliens, c'est quand même une prouesse diplomatique que le pays vient de réaliser. Pour d'autres aussi, est-ce que cela ne constitue pas un piège pour le pays? Et pour en savoir plus, je vous propose déjà de suivre en tout cas ce point de presse animé par son Excellence Abdoulaye Diop. Il était accompagné de son homologue marocain. Je vous propose déjà cet élément.
S'agissant de la question du Sahara, le Mali exprime son appui aux efforts de l'ONU, aux actions de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025. La République du Mali soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste. Après analyse approfondie de cet important dossier qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale, la République du Mali a décidé ce jour de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique RSD. Le Mali réitère son engagement à poursuivre ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale, fait à Koulouba le 10 avril 2026, fin de la déclaration du gouvernement de la République du Mali. Je vous remercie.
Voilà, c'était là son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Amadou Oumar Diallo, vous avez suivi justement ce point de presse, c'était avant-hier au palais de Koulouba. Alors, on va dire que la diplomatie malienne a encore frappé un grand coup.
Oui, la diplomatie a frappé un grand coup, mais avec un grand mais. Moi, je pose le grand mais parce que le Maroc, c'est un vieux partenaire du Mali, c'est vrai. Il y a toute une histoire qui nous lie à travers Tombouctou. Mais la diplomatie au plan international aujourd'hui, en 2026, ce n'est pas la période d'Ali Askia Mohamed. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, quelles sont les implications de cette nouvelle posture? Qu'est-ce que le Mali peut gagner? Et qu'est-ce que le Mali risque de perdre? Parce que, face à cette question, il faut voir deux pays, le Maroc et l'Algérie. On est très, très, très fâché contre l'Algérie. Très, très fâché contre l'Algérie. Mais une situation qui implique, et cette situation aussi, moi, je pense que c'est passager. C'est vrai, aujourd'hui, le comportement de l'Algérie nous irrite tous. Mais dans la vie des nations, c'est des étapes. Ça peut passer. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, bâtir sa stratégie sur des moments, sur des situations de crispation du moment. Ça peut souvent amener d'autres implications. Maintenant, est-ce qu'on a réfléchi à toutes ces implications? C'est ça mon inquiétude. Parce que aujourd'hui, on est dans une situation d'insécurité totale. On se bat pour sortir du terrorisme. Donc, une partie de la clé se trouve en Algérie. Le Mali partage la frontière avec l'Algérie. Le Mali partage d'autres choses avec l'Algérie. Et la relation entre l'Algérie et le Mali transcende les autorités actuelles du Mali et les autorités actuelles de l'Algérie. Parce que c'est des jalons que les deux présidents, Mourougo Keïta à l'époque, et le président algérien, avant même d'être président, le Mali a souscrit à lutter contre le colonialisme, contre la domination sur d'autres peuples. Et c'est dans ce cadre-là que le Mali a soutenu l'Algérie. Bon, Sahraoui se trouve dans la même situation. Moi, je ne dis pas qu'il soit sous tutelle de du Maroc ou bien qu'il soit indépendant, que c'est mauvais. Mais je pense que dans ce genre de positionnement, bon, il fallait, parce que c'est tout récemment, c'est avec Trump, c'est sous le menace de Trump que les Nations Unies ont évolué, disons. Bon, et ça, c'est une situation du moment. Et surtout, dire ça, le Mali n'est pas favorable à Israël. Mais ces pays-là sont amis à Israël. Donc, par ricochet, on va se retrouver amis à Israël. Amis à Israël contre qui? Contre la Palestine. Vous voyez, il y a trop d'implications. D'accord. Moi, je pense qu'il fallait... Bon, je pense que... Bon, on va donner le temps.
D'accord.
Au temps pour apprécier... avec beaucoup d'objectivité.
Cette
pour
décision.
L'instant,
d'accord.
Je préfère me réserver d'abord.
D'accord.
J'attends de voir.
Alors, Badou Sidiko va votre idée, préfère se réserver voilà, et voir la situation évoluer. Quelle lecture faites-vous de cette décision, que c'est un juge historique pour le Mali?
Oui, c'est un peu de décision historique, mais moi, je vais prendre un autre agrégat pour donner quelques explications de détails. Vous savez que quand on faisait la sixième année, quand on parle de géographie, on nous disait... la République Sahraoui Arabe Démocratique, capitale El Ayoum. C'est ce que nous avons connu dans les temps. Et il n'y a pas eu d'évolution majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque déjà, le Mali reconnaissait le Sahara occidental pour ne pas froisser son voisin algérien. Malgré tout, le Maroc n'a pas rompu avec le Mali parce que, nous le savons tous, la mer de Assandi vient de Tombouctou. Et quand on dit le Maroc et le Mali, c'est Ahmed Baba. Quand on dit le Mali et le Maroc, c'est le Pacha Djouder. Donc historiquement parlant, nous sommes liés. Le Maroc n'a pas totalement rompu avec le Mali. Et beaucoup estiment aussi qu'en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, est-ce que nous n'allons pas froisser un autre pays de l'Est qui est le Niger? Parce que récemment, Tchani a fait le déplacement d'Alger et la grande commission mixte algéro-nigérienne s'est réunie à Niamey. On a parlé de routes transsahariennes, des gazoducs, de l'éoduc transsahariens, de trains transsahariens. Bon, nous sommes en train de débattre. L'Algérie est en train de construire une centrale électrique de 46 MW pour le Niger. Or, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une délégation algérienne s'est rendue également au Burkina Faso. Et dans ce contexte, le Mali reconnaît de facto la République Sahraoui Arabe Démocratique. Et j'ai vu le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, hier, il était très enthousiaste. Donc, pour tout simplement dire que le Maroc attendait ce jour-là il y a très longtemps. Parce que qui parle de l'Afrique occidentale parle du Mali. Le Mali occupe une position clé dans cette zone. Mais encore faudrait-il rappeler que quand nous prenons l'histoire même du Sahara occidental, c'était le Sahara espagnol qu'on a appelé dans le temps le Rio de Oro. Maintenant, en 1975, quand les Espagnols ont décidé de quitter, les Marocains ont organisé ce qu'on appelle la Grande Marche. Et l'Algérie s'est opposée. Il y a même eu des échanges de tirs entre l'armée algérienne et l'armée marocaine à Amgala. Maintenant, la Mauritanie s'est impliquée. Donc, les Marocains ont dit aux Mauritaniens, partageons le Sahara occidental. Mais face à la puissance de feu des combattants du Front Polisario, qui était dirigé par Mohamed Abdallah Saleh à l'époque, avec le soutien de l'Algérie, la Mauritanie a été obligée de se retirer en 79 parce que en 77, les combattants du Front Polisario sont rentrés à Nouakchott. Ils ont bombardé la présidence mauritanienne. À leur sortie, ils ont rencontré sur leur chemin le colonel Mohamed Kounaoud Aïdallah, qui sera président plus tard. Et pour vous dire, ces jours-là, j'ai dit ça sur le plateau parce qu'il y avait un confrère qui disait que le Mali est le maillon faible de la lutte antiterroriste. J'ai dit que pour la petite histoire, les terroristes n'ont jamais attaqué Koulouba. La Mauritanie, dont ils louent les efforts, là, la présence mauritanienne a été bien bombardée par les six l'endroit seulement du Front Polisario. Et 1500 soldats mauritaniens ont été tués par les combattants du Front Polisario à Zouaret. Il a fallu que la France déclenche l'opération Lamantin. Donc ça, c'est un phénomène historique. Donc, pour tout simplement dire que l'Algérie a toujours soutenu le Front Polisario. C'est l'Algérie qui a fait que la Mauritanie a été obligée de se retirer. D'accord. Et le Maroc a continué la lutte.
D'accord.
Et le Mali a toujours essayé de jouer à l'équilibrisme entre les deux parties. Maintenant,
d'accord,
moi, j'ai un souci. Nous savons tous que entre le Mali et l'Algérie, le Mali, c'est le sud algérien. Une frontière de plus de 1500 km et nous sommes confrontés au terrorisme. Est-ce que l'Algérie ne va pas encore de façon ouverte apporter son soutien aux terroristes du Front de libération de l'Azawad? Je me pose cette question. Est-ce que l'Algérie ne va pas apporter son soutien à d'autres groupes pour déstabiliser le Mali?
D'accord.
Est-ce que le Maroc va pouvoir nous aider à faire face à cette situation en cas de cas?
D'accord.
Je me pose cette question.
D'accord, des questions qui méritent d'être posées. Abdallah Yattara, réaction par rapport à cette prouesse diplomatique que beaucoup ont jugé ainsi.
Oui, avant de venir à ça, permettez-moi de faire quand même un tout petit peu d'histoire. Le Sahara espagnol ou la République arabe saoudite démocratique a proclamé son indépendance précisément le 27 février 1976. Et sa monnaie, elle a même une monnaie qui s'appelle le peseta sahraoui. Et c'est un pays membre de l'Union africaine depuis 1982. Et la République arabe saoudite démocratique est reconnue par 40 pays à travers le monde. Elle siège permanemment à l'Union africaine et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Maroc a quitté l'Union africaine en 2003, mais pour revenir en 2017. À cause de la République arabe saoudite que l'Union africaine reconnaît et qui siège au même titre que les autres pays indépendants de l'Afrique. Mais précisément, c'était une entité, une colonie espagnole, et lorsque l'Espagne a voulu passer par référendum pour définir le statut de la République arabe saoudite démocratique, et à l'époque le Sahara occidental, il y a eu une grande marche verte, ce qu'on appelle la grande marche verte, organisée par le Maroc, et qui a regroupé à peu près 350 000 personnes, organisées par le gouvernement marocain, et à l'époque le roi Hassan II. Mm-hmm. Comprenez, donc sous cette pression, l'Espagne a établi un traité qui répartit effectivement la République arabe saoudite entre l'Espagne, entre plutôt le Maroc et la Mauritanie. Vous comprenez? Donc maintenant, plus précisément le 5 août 1979, la Mauritanie, sous la pression algérienne, a été obligée de se retirer et laisser le champ libre au Maroc. Et précisément le 6 septembre 1991, le Maroc aussi et le Front Polisario, le bras armé de la République arabe saoudite, ont signé un accord précisément de cesser le feu. Vous comprenez, ça c'est le 1er septembre, le 6 septembre 1991. Et depuis là, il existe la MINUSRO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Vous comprenez. Maintenant, pour sortir de ça, le Mali s'est appuyé sur deux points pour faire cette déclaration. Le premier point, c'est quoi? C'est le point 5 du communiqué qui dit que le Mali donne son accord aux efforts de l'Union, des Nations Unies et demande l'application de la résolution 2797 du 31 octobre 2025. Le Mali s'allie maintenant derrière la résolution des Nations Unies. Et pourtant, le Mali a chassé l'aménagement ici. Et le Mali a refusé toutes les solutions proposées par les Nations Unies. Mais aujourd'hui, on s'aligne derrière la résolution 2797 des Nations Unies. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Donc maintenant, le Mali aussi a dû constater effectivement que la République arabe saoudite démocratique s'est de plus en plus radicalisée en intégrant ACMI. Et ce qui fait que les deux Français enlevés à Oumbouri, et il paraît que parmi l'équipe qui a enlevé les deux Français figuraient deux Sahraouis. Comprenez. Et de plus aussi, les trois humanitaires européens qui ont été aussi enlevés, il paraît que les Sahraouis aussi participaient à ça. Donc en fait, il y a une collision aujourd'hui entre le Front Polisario et la,
et Acmi. Donc ces deux éléments-là combinés ont dû définir un peu la nouvelle position du Mali. D'accord. Mais moi, j'ai dit, je le répète encore, le droit à l'autodétermination est un principe sacro-saint des Nations Unies. Donc il faut que le droit aussi du respect des minorités aussi est un principe sacro-saint.
D'accord.
Moi, je crois que le Mali doit revoir un peu sa position. Je crois que c'est plus dicté par autre chose, par la question géopolitique, par rapport à l'Algérie, plutôt que par rapport à des avantages qu'on va tirer du fait qu'on doit renoncer à la reconnaissance de la République arabe saoudite démocratique.
D'accord.
Mais je crois qu'on doit quand même essayer de voir pour qu'on ne puisse pas encore s'embourber dans une situation géopolitique qui ne va pas nous arranger.
D'accord, très bien. Alors oui, M. Amadou Oumar Diallo, c'est vrai que cette décision, elle peut peut-être paraître surprenante pour beaucoup de Maliens, y compris vous, parce que vous aurez souhaité, en tout cas, qu'on garde notre position antérieure. Alors justement, parlant justement des répercussions, est-ce que vous avez des inquiétudes?
Oui, c'est ça. Mon inquiétude, c'est que la réaction de l'Algérie, peut-être on peut peut-être sous-estimer, mais le danger, c'est toujours de sous-estimer la capacité ou la force de son adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de son adversaire. Aujourd'hui, on est empêtré dans des problèmes de sécurité. Et je rappelle, on est fâché contre l'Algérie. Et moi-même, je suis très fâché contre l'Algérie. Mais je garde les pieds sur terre. Parce que le cœur n'a jamais servi. On a toujours dit qu'il faut toujours travailler avec l'intellect. Et l'intellect recommande toujours du recul par rapport aux événements. Pour bien disséquer avant de prendre toute décision. Je ne dis pas que cette décision a été prise à la hâte ou je n'apprécie pas le mode de prise de décision. Ce n'est pas mon rôle.
Okay.
Mais j'ai des inquiétudes en tant que citoyen. Et les Marocains, ce sont nos amis. Les Marocains, ce sont nos parents. Les Marocains, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs investisseurs privés au Mali. Les Marocains sont à la BDM, les Marocains sont à la BIM, les Marocains sont à la Sotelma Malitel. Ils sont, comment dirais-je, le repreneur de la... Ils sont à la Banque of Africa. Ils sont dans beaucoup de secteurs. Donc, le Maroc fait partie de l'économie malienne.
Okay.
Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines questions qui peuvent créer des petites susceptibilités peuvent créer des grands problèmes. Et moi, j'ai dit, il ne faut jamais lier des décisions stratégiques à des situations du moment. Parce que le moment est passager toujours. La journée, ça fait 24 heures. Il y a combien de 24 heures dans l'année? Et c'est la succession des 24 heures. Donc, c'est les événements du présent doivent servir des guides, certes, mais pas d'éléments déterminants dans le lendemain, dans la décision du lendemain.
D'accord.
Parce qu'on peut se tromper.
D'accord.
Il faut toujours garder la marge de l'erreur.
D'accord.
Et voyez, je reviens sur le cas ukrainien. Le Mali a condamné l'Ukraine. C'est normal. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement? Ça a renforcé le rang des adversaires. Et c'est vrai, on est en train de monter. Mais on n'a pas encore totalement gagné la guerre.
D'accord.
C'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui s'imposent à l'analyse objective.
D'accord.
Et maintenant, mais malheureusement, souvent, certains confondent cette appréciation objective souvent à des positions politiques qui ne rangent pas le pouvoir.
D'accord. Ok. Oui, justement, Abdoulaye Yattara, à la suite de cette décision du gouvernement malien, le Maroc aussi, qui suspend l'autorisation électronique de voyage pour les Maliens, à son tour, quel impact?
Bon, vous savez, moi je crois que l'importance d'une telle décision n'a rien à voir de commune mesure avec de tels avantages. Vous comprenez? Et moi je me demande comment le Mali peut s'allier derrière une résolution des Nations Unies aujourd'hui. Des Nations Unies, un Conseil de sécurité qui voit peut-être disparaître une civilisation avec la guerre Iran-Israël-États-Unis, un Conseil de sécurité qui n'arrive même pas à faire plier Israël dans beaucoup de résolutions un Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à mon avis, ne peut même pas s'opposer à un enlèvement d'un président vénézuélien, l'enlèvement d'un président panaméen, un Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à mon avis, a quelle valeur aujourd'hui? Je ne vois pas. Et si je vois le Mali s'aligner aujourd'hui, il reste une résolution des Nations Unies, alors qu'à son temps, le Mali même a balayé d'un revers de main les solutions proposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, je tombe de lui aujourd'hui. Quelle valeur on peut donner à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que ce Conseil est là uniquement pour brader un peu la souveraineté des minorités à travers le monde? Le Mali ne doit pas s'aligner derrière de telles résolutions. Moi, c'est mon point de vue.
D'accord.
Il faut qu'on sorte de ça.
D'accord.
Faisons une analyse plus objective de la situation. Faisons en sorte qu'on puisse sortir grandir de cette situation. Parce qu'en réalité, c'est guidé beaucoup plus par la situation géopolitique.
Okay.
Et j'ai dit que cette reconnaissance a beaucoup plus à voir avec l'Algérie plutôt qu'avec les avantages que les Marocains vont nous apporter.
Très bien. Alors, Badou Sidi Koba, cette décision du Mali, est-ce que ça ne prouve pas aussi à suffisance qu'aujourd'hui, il est quand même bon que les gens comprennent que le Mali est un pays souverain et que toutes les décisions sont prises à l'interne et ne sont pas dictées?
Oui, moi je pense que ça n'a rien à voir avec les questions de souveraineté. Le Mali, dans le cas du non-alignement, a toujours gardé une certaine neutralité. Et le Mali a toujours su s'arroger la bienveillance de l'Algérie et la bienveillance du Maroc. Le Mali a toujours été à équidistance entre les deux pays. Si aujourd'hui le Mali change de posture pour soutenir ouvertement le Maroc, par rapport à la question du Sahara occidental, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qu'il faut saluer, il faut saluer la diplomatie marocaine, parce que j'ai vu Nasser Bourita à Nairobi aussi au Kenya, où apparemment le Kenya aussi a reconnu la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental. Donc c'est pour tout simplement dire que la diplomatie marocaine aussi est très très dynamique. Contrairement à l'Algérie, ces dernières années, la diplomatie algérienne, il faut le rappeler comme c'est une diplomatie amorphe. Et les Algériens doivent sortir de cela. Mais pour le cas spécifique du Mali, je vais y revenir encore là-dessus. Nous avons été surpris par l'attitude du Mali. Parce qu'il faudrait rappeler que sous Ben Bella, c'était les bons rapports. Sous Wari Boumediene, c'était des bons rapports. Sous Sadil Benedjid, c'était des bons rapports. Sous Lamine Zeroual, c'était des bons rapports. Sous l'autre là, Abdelaziz Bouteflika, c'était des bons rapports. Avec Tebboune, au début, c'était la même chose. Donc Modibo Keïta, Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumtouré, Ibeka ont toujours su ménager l'Algérie et le Maroc. Et tous nos accords concernant le Nord ont été signés pratiquement en Algérie. Bon, peut-être que les autorités ont une autre idée derrière la tête. Peut-être que c'est une manière aussi de dire aux Algériens, c'est pour faire pression sur l'Algérie, puisque vous avez abattu notre drone, puisque vous êtes en train encore de servir de gîte et d'assistance aux combattants terroristes qui nous empêchent de dormir, nous aussi nous allons reconnaître la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental.
Et quelle va être la réaction selon vous de l'Algérie à travers cette reconnaissance, ce retrait de la reconnaissance?
Peut-être l'Algérie, je dirais l'Algérie, et la réaction de l'Algérie, probablement ce serait une réaction négative. Mais ce que nous allons demander aux Algériens, de faire preuve de bon sens, de ne pas oublier le pacte du sang qui a toujours lié l'Algérie et le Mali. Parce qu'il faudrait rappeler que dans le cadre du panafricanisme, Modibo Keïta a apporté tout son soutien au mouvement indépendant algérien pour pouvoir chasser la France. Maintenant, il faudrait quand même rappeler que dans l'affaire du Sahara occidental, j'en vais aussi aux Nations Unies. Parce qu'il a parlé de 76. Quand le ministre espagnol des Affaires étrangères, Pedro Cortinas, avait évoqué la question du Sahara occidental pour dire que le Sahara occidental en tant que tel ne représente pas un grand enjeu. Donc, depuis l'époque, l'ONU devrait définir un cadre clair pour permettre au Sahara d'être indépendant. Parce que je me rappelle bien Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. On lui a parlé du Sahara occidental. Il dit, mais le Sahara occidental, le Burkina, et vous m'excusez, bon, je ne vais pas parler du Burkina parce que c'est un pays de l'Est. Le Sahara occidental et la Guinée-Bissau, c'est des pays qui ne devraient pas exister, c'est des absurdités. C'est ce qui a été sa réaction. Donc c'est depuis là qu'il y a eu des problèmes. Et donc c'est pour dire que l'OIA aussi, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, a sa part de responsabilité dans ce que nous connaissons aujourd'hui par rapport au Sahara occidental.
Très bien. Merci Badou, nous sommes sérieusement pris par le temps, on ne fera même plus faire un dernier tour de table. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce débat, il pourra peut-être se poursuivre sur d'autres plateaux, toujours avec Djilba TV News. Avant de nous quitter, nous avons en tout cas une pensée pieuse, j'allais dire,
à notre confrère Monsieur Youssouf Cissokho, qui est quand même incarcéré depuis, voilà, Youssouf Cissokho que vous voyez ici en image, depuis le 5 février dernier. Nous savons très bien que c'est à partir du 23 mars dernier, voilà, qu'il avait été condamné à 2 ans de prison. Toutes nos pensées à Youssouf et à sa famille. Ceci met un terme à ce débat qui avait comme invité Amadou Oumar Diallo, journaliste de son état. Merci à vous. Oui, le douanier aussi, Amey Mahman Sissé aussi, Allah, qui a été arraché à notre faction, c'était avant-hier également.
Et ce nom me
repose en paix, notre collègue Nandi, voilà, ça a été une semaine très éprouvante. Ainsi, voilà, merci à vous, M. Amadou Oumar Diallo, d'avoir accepté notre invitation. Badoussi Doukouba, merci à vous aussi pour votre constante disponibilité. Abdallah Yattara, consultant formateur, merci également à vous. Gros clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. À sa tête, Augustin Echoubéi, Youssouf Sangaré, Moulay Touré, Moussa Haïdara, Fatma Traoré. Nous vous souhaitons de passer des bons moments de télévision en compagnie de Djoliba TV News. Allez, à très vite, au revoir.